L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On va parler de la situation de l'usine du Sud ce matin et notamment de la mise en service du projet Lucie. Vous recevez le président de PRNC.
Thibault Martelin, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain d'une nouvelle étape pour ce qu'on appelle effectivement communément l'usine du Sud. C'est la mise en service du fameux projet Lucie de séchage. On va en parler des résidus. C'est une étape nouvelle dans l'histoire de PRNC, mais c'est une étape importante.
Oui, alors permettez-moi d'adresser mes premiers mots à l'ensemble du personnel de PRNC et à les remercier pour leur engagement. Donc Lucie, qui a été mise en service vendredi dernier, après plusieurs années de période de travaux, c'est un projet qui avait été annoncé déjà au départ de Valais. Et qui a été menée par l'équipe de PRNC. C'est un projet ambitieux hein, de 60 milliards de nos francs, interrompu en 2024 suite aux exactions, puisque l'ensemble de l'usine et de la mine ont fermé, ont stoppé leur activité du 14 mai au 8 décembre 2024. Et le projet a pu reprendre en 2025, tant bien que mal, puisque tout le monde est au courant un peu de notre situation de trésorerie.
On va en parler.
Voilà, ce sont des lignes que l'on a voulu maintenir parce qu'il en allait de la pérennité de l'exploitation du site.
Alors, pour qu'on comprenne bien les choses, jusqu'à présent, les résidus, c'est-à-dire ce qui n'était pas exploitable, ce qui résultait finalement de l'exploitation, était stocké, c'était humide, c'était stocké derrière un barrage. Aujourd'hui, ça va être des galettes qui vont être stockées à sec. C'est juste ça la différence ?
C'est ça. Jusqu'à présent, en fait, donc juste pour rappeler un peu le process, nous extrayons essentiellement de la limonite, la partie la plus altérée du gisement, et nous la traitons par voie hydro, donc par un process où on va le mettre en eau, en pulpe, on va y ajouter de l'acide sulfurique pour dissoudre les particules de nickel et de cobalt et les récupérer après par précipitation. On neutralise bien évidemment cet acide avec du calcaire, on fabrique du gypse, du plâtre. Et donc pour une tonne de minerai qui rentre dans l'usine, nous en prélevons un peu moins d'1% puisque nous travaillons à des teneurs de 1,4% nickel, mais sur matière sèche. Donc en fait, par voie humide, ça fait beaucoup moins que ça. Et on rajoute un peu donc du coup de calcaire, ce qui nous donne 1,3 tonnes de résidus humides par tonne de minerai traité.
Aujourd'hui, ce résidu humide va être du résidu sec.
Exactement. Jusqu'à présent, il était donc stocké derrière le fameux grand barrage KO2 sur site qui a été réceptionné en 2016. Ce barrage, eh bien, il a une quantité, une capacité limitée. On arrivait à plus de 80% de sa capacité nominale. Il convenait donc de trouver une alternative au stockage de nos résidus. Nous avions le choix soit de construire un autre barrage, et on connaît l'empreinte environnementale d'un barrage et surtout...
Et les craintes qu'il suscite.
Exactement. Il a donc été décidé de partir sur un procédé innovant pour l'industrie du nickel, hein, puisque c'est un process qui est complètement éprouvé, en particulier pour l'industrie de la bauxite, et donc de presser ces résidus. Ce sont des gros filtres, un peu comme des filtres à café, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous allez précipiter votre marc et puis le presser. D'un côté, on va avoir de l'eau que l'on retraite, que l'on va neutraliser, et qu'après, une fois qu'elle sa qualité est suffisamment bonne, on va pouvoir la remettre dans le milieu naturel, et puis la partie sèche que l'on va pouvoir stocker du coup sous forme de verse classique, dont la stabilité est bien meilleure et la manipulation beaucoup plus simple et surtout qui permet d'être réhabilité au fur et à mesure.
Alors, vous avez tourné la clé de l'usine vendredi pour fabriquer ces premières galettes, hein, on les appelle comme ça en langage courant. La capacité aujourd'hui de stockage de ces résidus à sec est de combien? Et que va devenir KO2, ce fameux barrage dans lequel les résidus sont stockés actuellement sous forme liquide?
Alors aujourd'hui, nous avons préparer une zone pour ce stockage à sec de 80 hectares qui nous laisse un peu plus de 10 ans de visibilité. On produit à peu près 2 millions de tonnes de résidus asséchés par an. Et donc cette première zone va venir en fait en confortement du barrage actuel. Alors non pas parce que le barrage n'est pas stable, mais parce que dans la durée, on souhaitait en fait répondre aux meilleurs standards internationaux. Et donc, on va venir englober le pied de ce barrage qui nous permettra également de le réhabiliter et de revégétaliser cette partie pour qu'il se fonde mieux dans le milieu naturel. Nous avons encore besoin d'une zone de stockage liquide à l'arrière du barrage, mais de bien moindre surface. On en a besoin simplement parce que quand la météo ne le permet pas, on ne peut pas stocker des résidus secs. Quand on va avoir des interventions de maintenance sur l'usine d'assèchement des résidus, eh bien, nous aurons besoin d'un bypass qui nous permettra de stocker temporairement nos résidus humides. On va donc réduire la surface de ce barrage. On va assécher, alors, parce qu'il y a une sédimentation dans le temps
naturellement,
naturelle, et puis parce qu'on va mettre des pompes pour abattre un peu la nappe, ce qui nous permettra à terme vraisemblablement également de pouvoir bénéficier d'une surface de stockage sur ces résidus historiques.
Alors ces stockages, cette durée de stockage, elle peut aller jusqu'à combien de temps aujourd'hui? Vous donnez combien de temps avant que tout soit plein à Pronier et Sourcils de ces résidus? Et deuxième question qui va avec, est-ce qu'ils sont éventuellement valorisables pour une deuxième phase de vie en quelque sorte?
Alors sur la première question, je vous l'ai dit, nous avons un peu plus de 10 ans okay. sur le confortement sur la partie aval de l'actuel barrage. À terme, en fait, ce sont des résidus qui se manipulent comme les stériles miniers et qui seront donc stockés dans des zones à réhabiliter, soit en comblement de fosses, soit sur des réaménagements paysagers qu'on pourra avoir sous réserve de pouvoir maîtriser toutes les eaux de surface. Ensuite, sur la valorisation de ces déchets, comme c'est un nouveau produit. À date, on a très peu d'informations sur notre possibilité de le valoriser. On va commencer à regarder ça parce que c'est vrai qu'on a un matériau qui est quasiment inerte, qui est sec, donc transportable. Il est plus sec que le terrain naturel, c'est-à-dire qu'on aura pratiquement 20% d'humidité quand le terrain naturel en compte 40%, et très riche en fer, avec plus de 70% d'oxyde de fer sous forme hématite, qui pourrait peut-être intéresser certains industriels.
Alors Thibault Martelin, parlons un petit peu de Pronier et Sourcils plus largement que le seul projet Lucie, dont on comprend qu'il est une étape importante. Dans quel état se trouve aujourd'hui la société? Alors il y a deux indicateurs évidemment importants. Le premier, c'est la production. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez augmenté la production par rapport aux années précédentes?
Alors nous avons pu fêter trois records en 2025, un record de production usine en septembre, un record de production mine en octobre et également donc un record de production annuelle avec un peu plus de 36 000 tonnes sur l'année 2025, alors même que l'usine avait été arrêtée 8 mois en 2024, ce qui montre en fait une résilience extraordinaire de cette usine, une capacité de remobilisation des équipes qui a été très forte et je les en remercie. D'un point de vue financier, pour revenir un peu en arrière et sans noyer tout le monde avec des chiffres, cette usine, en fait, cette société a été en grande difficulté financière et a pu être financée grâce au concours de l'État français, sous réserve de pouvoir trouver un nouvel actionnaire. C'est ce qui avait été décidé en tout début 2024, où nous avons bénéficié d'un premier prêt d'État. Malheureusement, ce prêt a servi pratiquement exclusivement à couvrir les charges de mise en sécurité pendant l'arrêt forcé de mai à décembre 2024. Il a fallu donc que l'on demande et qu'on finisse par obtenir un nouveau prêt d'État en deux temps. En fait, le dernier date de juillet 2024, devait nous permettre de tenir jusqu'à conclusion d'un accord transactionnel avec un nouvel actionnaire. Nous sommes toujours sur cette enveloppe. Notre EBITDA sur les 5 derniers mois 2024 est positif, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps et en tout cas jamais sur une période si longue. Janvier également, on a un EBITDA positif qui nous permet même de couvrir nos capex sur le mois de janvier. Donc cette usine est encore en grande difficulté financière. Pour autant, on a des indicateurs qui sont très encourageants avec un retour à l'équilibre qui est possible, voire probable, dans les tout prochains mois.
Il y a eu une réduction d'effectifs à certaines époques. Aujourd'hui, il y a 1350 salariés environ. Il n'y a pas de plan social envisagé. Avec les perspectives que vous évoquez, ces frémissements, on met des guillemets évidemment partout, ce n'est pas le moment.
Alors non, il n'y a pas eu de plan social. Il y a eu une réduction d'activité au moment de la fermeture, du report du projet Lucie, qui a impacté nos sous-traitants et que je remercie également parce qu'ils ont su comprendre notre situation et s'adapter. Aujourd'hui, le projet Lucie va même créer une centaine d'emplois supplémentaires, certains en sous-traitance, d'autres en interne. Aujourd'hui, vous le disiez, on est un peu plus de 1350 personnes. chez Pronier Resources, 1200 ETP sous-traitants sur site. Donc c'est un site qui fonctionne avec 2500 personnes. Voilà, on espère que notre situation financière, que l'évolution des discussions que l'on a avec l'État et avec un éventuel futur repreneur nous permettront de ne pas avoir à envisager un plan social.
Alors justement, Thibault Martonin, il y a des discussions avec un repreneur aujourd'hui qui se passent dans le plus grand secret. On sait bien que dans ce genre de transactions, c'est normal. Ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il y a des discussions en cours et que l'avenir immédiat de l'usine est en jeu, hein, parce que sans repreneur, ça va être très compliqué. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des informations ? Est-ce que les dossiers avancent ? Et est-ce qu'il pourrait y avoir, on va dire, des indications dans les semaines qui viennent ?
J'aurais été ravi de pouvoir vous annoncer une signature et la date d'une signature. Pour autant, les discussions continuent à avancer. Il est certain que c'est un deal qui, aujourd'hui, est mené par la Banque Rothschild et par l'État français, qui est venu à notre secours à plusieurs reprises pour améliorer notre trésorerie. La France devait se doter d'abord d'une loi de finances pour pouvoir avancer sur...
Ça, c'est fait.
Donc ça, c'est fait, enfin, mais très récemment. Donc, les discussions pourront aboutir, je pense, dans les prochaines semaines. La condition, en fait, qui avait été fixée, et quel que soit le repreneur, et j'ai l'impression que ça ne concerne pas que PRNC, était assortie également de conditions qui sont traitable beaucoup plus localement, en particulier un accès à une énergie meilleur marché, et puis également à pouvoir diversifier nos revenus en exportant le minerai fatal qui ne serait pas valorisable dans nos usines.
Parce qu'évidemment, tous les repreneurs, quels qu'ils soient, pour quelque usine que ce soit, cherchent à savoir où se situe le seuil de rentabilité et que tous les moyens soient mis en œuvre pour essayer d'y arriver.
Oui, et puis c'est du bon sens. Enfin, c'est le préambule du code minier, c'est exploiter un gisement en bon père de famille. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas techniquement traiter la totalité du minerai que nous excavons de notre mine dans notre usine. Il paraît plutôt normal, ou en tout cas de pouvoir valoriser ce minerai plutôt que de le jeter. Et ça concerne également d'autres minerais que l'on pourrait peut-être concentrer et valoriser. Je pense à de la chromite, il y a d'autres revenus complémentaires à aller chercher et on y travaille. Pour cela, il faut modifier le code minier qui aujourd'hui, à l'intérieur des réserves métallurgiques, interdit l'export de minerais.
On sait qu'il y a un travail en cours au niveau des élus à ce niveau-là. Une dernière question, Thibault Martonin, le repreneur potentiel qui doit se positionner, c'est une question de jours, de semaines, de mois ?
Alors j'espère le plus tôt possible. La documentation juridique prend toujours du temps, donc à partir du moment où les deux parties seront d'accord sur les conditions du deal, il y aura encore plusieurs semaines de rédaction. J'espère que l'on pourra, d'ici quelques semaines, et en tout cas avant la fin du deuxième trimestre, pouvoir annoncer la reprise de PRNC par un nouvel actionnaire.
Eh bien, on aura l'occasion de vous recevoir de nouveau. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci.
Thibault Martonin, président de PRNC, d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.
Une interview que vous pourrez réécouter et visionner également sur notre site internet, le www.rrb.nc. Il est 7h passé de 48 minutes. Merci d'être avec nous. On marque une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Vous avez un avis. Vous nous appelez dès maintenant au standard de Radio Rythme Bleu au 25 46 46.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.